Donc,
Super,
merci
merci
Philippe,
beaucoup.
merci Jean-Marc, hein, de me donner l'occasion de revenir sur un certain nombre d'éléments que nous abordons dans l'ouvrage Le nouveau capitalisme agricole de la ferme à la firme. Je reviendrai sur l'origine de cet ouvrage et je développerai avec vous des éléments qui relèvent aussi d'un terrain que je poursuis actuellement. Hein. Je suis en ce moment sur des terrains, je le disais tout à l'heure à Jean-Marc et Philippe, dans le nord-est de la France et puis dans le sud-ouest, dans le grand sud-ouest, hein, où je continue, où je poursuis mes travaux sur l'évolution de ce que je vais appeler ces formes complexes d'entreprises qui ont fait plus ou moins leur apparition dans certains territoires, puisque bon, on pourra aborder ça, hein, et notamment avec les historiens que vous êtes, sur la genèse de ces formes d'entreprises que j'étudie actuellement, et vos remarques, vos retours me seront, j'en suis sûr, très, très utiles. J'ai eu l'occasion de vous faire passer le dernier article paru dans l'année sociologique, coécrit avec Loïc Mazin, qui fait écho à des travaux qu'on a menés ensemble auprès de dirigeants et de managers dans la filière fruits et légumes. On pourra en discuter également. Alors, juste pour situer mes travaux, hein, mes premiers travaux portaient sur des formes d'organisation professionnelle et syndicale. Hein. J'ai cherché à comprendre les déterminants de l'engagement dans les organisations syndicales agricoles, hein, au moment de ma thèse de doctorat en sociologie. J'ai poursuivi ces travaux par l'étude notamment d'organisations minoritaires comme la coordination rurale qui avait émergé dans les années 90 en France. Et puis, j'ai poursuivi des travaux également sur le comportement politique au CEVIPOF, où je suis également chercheur associé. Depuis une dizaine d'années, j'ai cherché, notamment avec Bertrand Hervieux et puis ma collègue économiste Geneviève Nguyen, à comprendre les limites des formes d'organisation sociale de la production agricole. J'ai cherché, notamment à travers deux numéros de la revue Études rurales qui font écho également à ces travaux sur l'agriculture de firme, à mettre en perspective de nouvelles formes d'organisation sociale du travail pour essayer d'en comprendre aussi les modalités de coexistence avec des formes plus traditionnelles. Et j'ai cherché donc depuis 2007 à identifier ce que j'appellerais des processus d'abstraction, de financiarisation qui entouraient les évolutions des formes d'organisation de la production agricole. On était à cette période-là, dans un moment un peu particulier où on avait vu investir des grands patrons de l'industrie dans le secteur agricole, que ce soit en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et puis, à cette époque-là, j'étais sur le terrain également dans le sud-est de la France et je voyais bien que les formes d'organisation de la production associées à ce modèle d'agriculture familiale, ou du moins qu'on qualifiait encore d'agriculture familiale, s'en éloignaient grandement. Et il me semblait important justement d'essayer de décrypter ces évolutions, alors même que la sociologie dont je suis issu, la sociologie rurale, hein, et je dirais aujourd'hui la sociologie des mondes agricoles, avait été marquée par cet invariant qui était l'agriculture de type familial, ce modèle qui voit coïncider capital foncier, capital d'exploitation et main-d'œuvre. Et c'est quelque chose qui a traversé notamment le projet d'ouvrage qu'on a publié avec Bertrand, Sociologie des mondes agricoles. Et cette ambition, elle a aussi nourri ce projet de recherche AgriFirme, qui a été lauréat donc, de l'appel à projet JCC de l'ANR, et qui m'a permis, avec d'autres collègues, dont Geneviève Nguyen, Pierre Blanc, Martine Guibert, Evan Buller, géographe, de poursuivre des travaux non seulement en France, mais également sur d'autres territoires. Voilà, ces travaux, je les poursuis actuellement dans le cadre d'une chaire, la chaire Germea, que nous avons créé avec Geneviève Nguyen. Et puis, accessoirement, je travaille également dans le cadre d'une autre chaire qu'on a montée avec Montpellier Supagro, Lehi Purpan, et qui porte sur l'évolution des filières sous démarche de qualification, qui elles aussi sont caractérisées par l'émergence de nouveaux acteurs et notamment de nouvelles entreprises agricoles. Alors, plus précisément, le terrain que je fais en ce moment porte sur la figure du dirigeant, du chef d'entreprise agricole, ces chefs d'exploitation agricole qui cherchent à s'arracher du modèle traditionnel qui les a vus parfois naître et qui cherchent à s'implanter en France ou à l'étranger sur des modèles d'organisation productive atypiques. Donc, mon entrée est celle-ci, c'est-à-dire que j'observe cette boîte noire qui est l'entreprise agricole de grande taille au prisme des trajectoires de ses dirigeants. Voilà, et tout ça, ça a fait l'objet d'un certain nombre de travaux et de publications. Alors, mon propos va s'articuler autour de trois points. Dans un premier temps, je reviendrai avec vous sur le contexte, les éléments de contexte que j'ai pu énoncer par ailleurs. Et ces éléments de contexte me permettront de présenter aussi une série d'hypothèses de travail que je cherche à valider ou que parfois j'invalide aussi, hein, et qui posent de nouvelles questions à la recherche et notamment à la sociologie rurale et puis plus largement aux études rurales. Voilà. Et puis je vous expliquerai rapidement ce qu'est cette chaire Germea que j'ai créée dernièrement. Alors, l'entreprise agricole, ou du moins l'exploitation agricole, hein, si vous voulez, fait face aujourd'hui à un nouveau contexte et à de nouveaux enjeux, notamment en France. Parmi ces éléments contextuels qui permettent de définir les mutations qui ont cours, l'éclatement des formes d'organisation de la production. Cet éclatement, il renvoie en fait à trois variables. La première variable qui explique cet éclatement des formes et des structures d'exploitation agricole, c'est la variable démographique. Hein. Si je prends le cas français, vous le savez, les mondes agricoles sont confrontés à un effacement sans précédent de la population active, mais plus précisément parce qu'on va souvent un peu trop vite quand on parle d'effacement démographique autour de la question agricole, c'est la catégorie des chefs d'exploitation qui s'efface aujourd'hui grandement, notamment dans ces exploitations de taille moyenne sur lesquelles je reviendrai. Et aujourd'hui, l'INSEE a encore fait paraître un document dernièrement qui en atteste. Hein, les chefs d'exploitation sont entrés définitivement en minorité. Ils ne représentent plus qu'1,7% de la population active française. Et on voit bien qu'à côté de l'effacement des chefs d'exploitation, un autre effacement s'affirme et s'accélère, c'est celui des conjointes d'exploitants agricoles. Et on observe en fait actuellement, hein, j'en discutais encore ce matin avec des responsables professionnels, à un croisement de deux courbes, la courbe donc des chefs d'exploitation et des conjoints, hein, qui chute définitivement, et celle des salariés, et notamment des salariés qui émanent d'entreprises extérieures à ces exploitations agricoles, qui ne cessent d'augmenter. Hein, et on est vraiment à un point de croisement, on reviendra là-dessus, entre le nombre de chefs d'exploitation et celui des salariés, et notamment des salariés qui interviennent, et c'est l'un des sujets sur lesquels je travaille en ce moment, dans des entreprises de travaux agricoles. Toutes les filières sont touchées, vous le voyez à droite, hein, de cette slide. Les difficultés de renouvellement ne se font plus jour, elles sont bel et bien installées, quelles que soient les filières. Je discutais encore dernièrement dans le cadre d'une enquête que je mène avec des prescripteurs et des experts fonciers. Une conseillère me disait, mais alors que j'évoquais le travail qu'on réalisait en ce moment sur les élevages bovins, viande et lait, mais me disait, mais des exploitations en bovin lait ou en bovin viande, par exemple, chez nous, on n'en installe plus, quoi. Donc, c'est pour dire, hein, y a, même dans le discours professionnel, non seulement beaucoup de lassitude, mais beaucoup d'inquiétude, je dirais, et la reconnaissance que ce non-renouvellement est plus qu'avéré, il est bien installé. Avec une population active agricole aussi, et notamment de chefs d'exploitation agricole qui ne cessent de vieillir. On parle beaucoup de ces installations hors cadre, on sait très peu de choses sur elles, ou du moins on réduit très souvent ces installations qui laissent à penser à des mouvements intéressants que bon nombre d'enfants non issus du monde agricole ou des plus âgés reprendraient les exploitations. Or, on voit bien que le pourcentage des installations de personnes non issues du monde agricole, eh bien on ne l'a pas. On a aujourd'hui des installations hors cadre, mais qui sont très loin de permettre ce renouvellement des générations. Et on voit bien que l'essentiel quand même des installations aujourd'hui sont le fait d'enfants d'agriculteurs, qu'on le veuille ou non. Et puis, par contre, ce qui est assez frappant, c'est de voir le développement de cette pluriactivité. Hein, 30% des moins de 40 ans qui s'installent aujourd'hui sont pluriactifs. Et cette pluriactivité n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaissait il y a encore 20 ou 30 ans. Cette pluriactivité, elle est à l'œuvre aussi dans des départements où les structures d'exploitation sont même de grande taille. Dans le seul département de l'Aisne, un chiffre, 50% des jeunes de moins de 40 ans qui s'installent le font en gardant un pied dans une activité extérieure en dehors de la ferme. Donc ça en dit long sur l'incapacité aussi des grandes structures d'exploitation dans des départements même comme l'Aisne, hein, avec des outils économiques qui tiennent la route, hein, à désigner des repreneurs et à faire en sorte que ces repreneurs s'installent à titre principal. Et ce qui explique aussi hein, le recours à des phénomènes, enfin à des formes de prise en charge du travail sur lesquelles je reviendrai, et des formes de sous-traitance et de délégation sur lesquelles je travaille également. Donc, on a un désir d'agriculture, mais ce désir d'agriculture ne correspond pas forcément non plus à l'offre d'exploitation qui aujourd'hui ne trouve pas de repreneurs. C'est-à-dire que on a un décalage entre les porteurs de projets, et il y en a beaucoup, et l'offre d'exploitation qui vont cesser leur activité. Et l'une des inquiétudes, elle tient au fait que la capacité productive à l'échelle de certains territoires est plus que malmenée. La question de son maintien est posée. On a aujourd'hui des exploitations de taille moyenne qui ne trouvent pas de repreneurs parce que la plupart des porteurs de projets souhaitent s'installer sur des systèmes d'exploitation qui ne correspondent pas à l'offre d'exploitation en place. Donc oui, il y a des choses intéressantes autour de l'attrait, hein, et la crise du Covid a laissé à penser qu'à un moment donné, on allait assister à un retour sur des exploitations d'un certain nombre de jeunes et moins jeunes. Alors, ce qui est vrai, hein, c'est avéré dans certains départements, mais le problème, c'est que ces installations, elles ne couvrent pas les départs, et d'autre part, elles ne couvrent pas les départs sur des exploitations qui, aujourd'hui, si je prends le cas de la région Occitanie, sont des exploitations qui portent l'appareil productif, hein, dans le secteur par exemple vigniviticole ou arboricole, surtout arboricole. On voit bien que les exploitations qui disparaissent sont des exploitations qui jusqu'alors faisaient tourner l'outil de transformation et de conditionnement. Ça, c'était la première variable, la variable démographique. Deuxième variable qui explique aussi cet éclatement des structures, la variable structure d'exploitation elle-même, le recensement agricole de 2010 en témoigne. Il n'y a jamais eu autant de grandes exploitations de taille économique, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on classe les exploitations agricoles par leur PBS, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les subventions, hein, ce qu'on appelle le produit brut standard. Jamais autant de grandes exploitations, des exploitations de petite taille qui disparaissent, oui, mais à un rythme parfois, dans certaines régions, moins rapide que le rythme de disparition des moyennes. Or, c'est bien ces exploitations de taille moyenne qui ont constitué le fer de lance des politiques agricoles, ces exploitations de taille moyenne qui ont constitué, d'une certaine manière, l'idéal type de l'exploitation familiale à la française. Alors, on s'est employé avec mes collègues Geneviève Nguyen et Bruno Le Gagneux à regarder les données individuelles du RA et puis de l'enquête structure. Et qu'a-t-on observé entre le recensement de 2000 et de 2016? C'est que c'est les exploitations qui ont recours de manière prépondérante à du travail familial n'ont pas cessé de diminuer. Ces exploitations gérées même par des hommes seuls ont chuté de près de 37% entre ces deux enquêtes, entre ce recensement et l'enquête structure. Et à côté de ça, on a connu une augmentation des exploitations qui avaient recours de manière prépondérante à la délégation du travail ou aux salariats prépondérants, voire aux associations, certes d'exploitation à l'origine familiale, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien d'exploitation familiale au sens de la mobilisation de la main-d'œuvre qui est de moins en moins une main-d'œuvre de type familial. Parce que, effectivement, on peut se gargariser ou être très, très heureux de constater que 90% des exploitations familiales françaises sont de type familial, mais elles sont de type familial avant tout pour des raisons capitalistiques, il ne faut pas l'oublier. Elles ne sont plus familiales au regard de cette coïncidence entre capital foncier, capital d'exploitation et main-d'œuvre. Or, c'était bien cette coïncidence qui caractérisait ce qu'on a appelé le modèle familial. Et les chiffres qu'on a pu décortiquer, donne à voir le visage d'une agriculture de type familial portée essentiellement par des hommes seuls. Hein, 30% de ces 90% sont des exploitations gérées par des hommes seuls. Seuls 20% des exploitations correspondent au modèle traditionnel, mais l'INSEE confirme tout ça, puisque l'INSEE nous dit dernièrement, encore en janvier, seuls 20% des chefs d'exploitation ont un conjoint ou une conjointe qui exerce le même métier qu'eux. Donc, on a bel et bien la confirmation de ces chiffres-là. Nous, on était à 21%, et l'INSEE nous dit il n'y a que 18%, même, je crois, de chefs d'exploitation qui ont un conjoint ou une conjointe exerçant le métier d'agriculteur ou d'agricultrice. Ce qui en dit long, de toute façon, sur cet exercice conjoint du métier. Et à côté de ça, on a des formes, effectivement, d'associations qui persistent, mais on est très loin aussi du GAEC à la PAPA, du GAEC qui a pu caractériser les évolutions de territoires comme les vôtres dans l'ouest de la France. Et on voit bien combien il est difficile de maintenir aussi des formes associatives de type familial. Hein. Les terrains que je fais en ce moment sur la transmission dans les élevages montrent qu'il est de plus en plus difficile d'intégrer ou de faire perdurer des formes qui relèvent des logiques familiales. Alors on peut s'en émouvoir, hein, mais c'est quand même une réalité qui est à l'œuvre. Et puis à côté de ça, ben on a vu apparaître... Alors, c'était déjà en marche depuis des décennies, hein, dans le secteur viticole ou dans le secteur fruitier, mais on a vu apparaître des entreprises agricoles dans des secteurs où, très loin du vin, elles n'étaient pas apparues, qui s'éloignent fondamentalement de l'exploitation familiale. Et ces exploitations que nous, on a pu qualifier à un moment donné d'agriculture de firme, qui empruntent au secteur industriel et commercial, représentent quand même pas moins de 28% de l'emploi et 30% du chiffre d'affaires de la ferme France. Donc, on voit bien que les exploitations agricoles à la française ne font plus modèle, et ce qui rend beaucoup plus difficile, on pourra en parler ensemble ensuite, hein, en conclusion, la construction d'une politique agricole permettant d'accompagner l'ensemble de ces formes-là. Alors, quelles sont les dimensions de ce basculement? Alors, l'une des premières dimensions tient à cette rationalisation que nous abordons avec Loïc Mazin dans ce papier de l'année sociologique, rationalisation de l'outil productif agricole qui avait été mise en lumière par Max Weber ou Karl Marx à la fin du 19e siècle, hein, Weber qui a observé, comme on le souligne avec Loïc en introduction de notre papier, les conséquences du passage d'une organisation patriarcale de la production de type capitaliste et qui s'affirmait aussi à l'est de l'Elbe, hein, donc les prémices d'une économie agraire à laquelle l'entrepreneur et les salariés supplantaient le grand propriétaire et les paysans. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau en soi, mais c'est vrai que ce mouvement de rationalisation, d'extension, avait été contrarié par des politiques publiques, non seulement en France, mais également en Europe, et cette rationalisation qui n'est pas que nouvelle, et ces processus même d'industrialisation ou d'intégration, avaient été à un moment donné quand même contrés. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'ils sont de moins en moins contrés par les dispositifs de politique publique, et qu'ils sont de moins en moins contrés aussi par des exploitants et des familles même d'agriculteurs qui cherchent aussi à rationaliser parfois leur outil productif. Ce qu'on observe aussi, et c'est ce qui nous a amené à appeler ces formes d'agriculture que nous étudions, ou plutôt plus précisément d'entreprises agricoles, c'est une complexification des structures organisationnelles. Vous avez ici la photo d'une entreprise agricole au nord de l'Italie que nous avons enquêté avec Geneviève, alors qui dispose de son site et de son siège social à côté de Turin, mais qui dispose aussi d'unités de production dans le centre de la France. Et on a cherché à comprendre, et ça a fait l'objet d'un des chapitres de cet ouvrage, comment cette entreprise se structurait. ces entreprises aux allures de firmes de très grande taille renvoient aussi à des dispositifs juridiques d'une très grande complexité. Hein. Vous avez ici donc cette exploitation, ce groupe, hein, ce groupe Bovina installé en Italie, mais qui dispose de pas moins de 8 exploitation agricole dans toute l'Europe hein, et qui produit au bas mot 25 000 bovins par an. C'est une organisation qui a également des partenariats avec d'autres entreprises, même alors toujours de type familial en France, comme celle que je vous présente ici même. Hein. Vous avez ici, quand je parle de complexité, le schéma qui illustre en fait l'organisation d'une entreprise agricole située à quelques kilomètres de Toulouse. Hein. Voilà, par exploitation agricole, on entend aujourd'hui parfois une somme de sociétés qui répondent à un souci de multispécialisation, de multi-activité. Et c'est aussi ça, la complexification des exploitations agricoles. Cette complexification, elle renvoie à la capacité qu'ont certains chefs d'entreprise aussi à s'appuyer sur le droit pour déployer des activités qui font aussi écho à de nouvelles injonctions, et notamment des injonctions environnementales ou un appel à la diversification des activités. Donc, on voit bien même que à travers cet exemple ou ces exemples hein, qu'on étudie, que la complexification des formes d'organisation de la production agricole renvoie à la capacité que certains ont à manier des outils juridiques leur permettant de mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Donc là, on est bel et bien sur une exploitation de type familial, mais vous voyez, l'appareil de recensement agricole ne nous dit rien de ces formes-là. Si je prends l'appareil de statistique agricole, derrière ce groupe, parce qu'il s'agit bien d'un groupe familial, vous avez une, deux, trois exploitations agricoles. Donc l'appareil de statistique va considérer, si on le prend tel quel, qu'il y a trois exploitants, alors même un peu plus, hein, quatre, cinq, six exploitants derrière ces différentes entreprises. Or, en fait, c'est une même famille qui gère l'ensemble de ces unités. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle s'appuie notamment sur des formes commerciales pour développer des activités de production agricole. Et c'est bien là aussi ce qui nous a amené à parler de grandes entreprises agricoles intégrées aux allures de firmes, c'est que ces grandes entreprises, elles intègrent aussi des fonctions non seulement industrielles, mais aussi et peut-être avant tout commerciales, pour mener à bien leurs activités productives. Et ce qu'on a observé, et ça fait l'objet du papier avec Loïc dans l'année sociologique, c'est que ces processus de rationalisation, ils sont liés aussi à de nouvelles injonctions. Je parlais tout à l'heure de l'injonction environnementale, de la réglementation notamment, qui s'impose aux exploitations agricoles. Et elle renvoie aussi à de nouvelles formes de rationalisation formelles qui sont imposées par la grande distribution et qui impliquent à un moment donné une réorganisation de l'organisation du travail. Et on a pu observer notamment dans la filière fruits et légumes à travers des immersions que la mise en place d'un certain nombre d'outils de gestion qu'on retrouve dans le secteur industriel ou commercial répond à ces nouvelles formes de rationalité qui s'imposent à ces entreprises. Des entreprises qui, elles, ont la capacité de faire ce que les exploitations de taille moyenne ne peuvent pas faire, hein, puisque c'est aussi ces innovations managériales, ces processus de rationalisation de la gestion de la main-d'œuvre, des réponses un peu inattendues aux dispositifs de politique publique qui ont été mis en place et qui étaient censés défendre les exploitations de taille moyenne. Ce qu'on a pu aussi montrer à travers ces travaux, et ça a fait l'objet aussi du chapitre 1, Anatomie d'une firme, hein, c'est la capacité de ces entreprises à anticiper, à être beaucoup plus réactives sur les marchés, à innover et à s'insérer sur différents marchés. Et ça, c'est plutôt inattendu. Alors, je pense quand même que vous avez dû vous en rendre compte, mais la crise du Covid a bien montré une chose, c'est que la dépendance à la main-d'œuvre salariée était de plus en plus forte, et notamment dans les filières de l'agriculture biologique. Et on voit bien que bah, la plupart des productions qu'on consomme sur des marchés, même comme des marchés de niche, hein, sont le fait de ces grandes entreprises qui ont la capacité effectivement d'être non seulement sur des circuits longs, mais aussi sur des circuits courts. Autre variable qui explique l'éclatement des structures d'exploitation, la variable patrimoniale. Ce que je constate sur le terrain, et les derniers terrains que je fais ne démentent pas ceci, c'est qu'on a aujourd'hui des affaires de famille qui sont de plus en plus complexes, des familles agricoles qui sont marquées du sceau du divorce, de la pluriactivité, de la mise en place d'ateliers qui ne sont pas forcément des ateliers partagés en couple. Et ce que j'observe aussi, c'est que les familles, très souvent, ne se mettent plus du tout au service de l'exploitation. C'est plutôt l'exploitation qui devient au service de la famille, hein, qui se met au service de la famille. Et alors même que le grand combat des jeunes agriculteurs et des organisations agricoles après-guerre a été de s'émanciper de la tutelle des grands propriétaires fonciers, de la gestion patrimoniale, on voit bien que des logiques de rente sont de retour aujourd'hui dans la plupart des territoires français, et que ben, les exploitations agricoles sont marquées du sceau d'un processus d'abstraction capitalistique qui est très très grand, et ce, sous l'impulsion aussi de nouveaux réseaux, hein, de conseils stratégiques. Hein, on mène en ce moment des travaux dans mon équipe sur la place des avocats fiscalistes, des experts fonciers dans les reconfigurations que j'ai pu énoncer tout à l'heure. Et on voit bien aujourd'hui que ces reconfigurations, elles se font aussi au regard de la protection de ce projet avant tout patrimonial. Et du coup, ça conduit à quoi ? Ben, ça conduit à bousculer le faire ensemble qui a été caractéristique de l'organisation de la production agricole à la française, et ça conduit aussi à de nouvelles façons d'organiser la production à l'échelle des territoires. Et ce qu'on observe, c'est pas simplement une industrialisation du secteur agricole. Le secteur agricole n'a pas attendu l'émergence de grandes entreprises pour s'industrialiser et confère ce qui s'est passé dans l'histoire en Bretagne ou ailleurs. Les exploitations de taille moyenne, voire de petite taille, à travers des processus d'intégration par l'aval, ont contribué largement au processus d'industrialisation du secteur agricole. Non, ce qu'on observe, nous, c'est plutôt des processus d'industrialisation de l'appareil productif, de l'exploitation elle-même, mais surtout. Et pour moi, c'est vraiment le phénomène qui est le phénomène qui me marque le plus quand je vais sur le terrain, c'est un phénomène de tertiarisation de l'activité productive agricole. C'est-à-dire que pour nous, le capitalisme agricole, dans ses visages les plus contemporains, du moins tel qu'il s'exprime en France, est incarné par deux choses. Il est incarné par des logiques d'intégration de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers dans des grandes entreprises, hein, c'est ce que communément on appellera l'industrialisation, et un autre phénomène qui est celui de la tertiarisation et de l'externalisation, un peu comme on a pu l'observer dans d'autres secteurs d'activité. Donc le capitalisme agricole, ce n'est pas simplement la méga ferme, ce n'est pas simplement l'industrialisation de l'appareil productif, c'est aussi l'externalisation de certaines séquences productives. Et au milieu de ça, on a des formes plus traditionnelles qui cherchent à exister, et des organisations professionnelles qui sont bousculées, et qui sont bousculées même par de nouvelles façons de faire le faire ensemble, avec des plateformes numériques qui émergent dans tous les sens et qui viennent bousculer les logiques du faire ensemble. Alors, un faire ensemble, juste entre parenthèses, qui est de plus en plus difficile. Parce que bien de moins en moins d'agriculteurs à l'échelle de certains territoires, et donc une prévalence aussi à déléguer plutôt qu'à mutualiser, parce que la mutualisation est parfois de plus en plus difficile à réaliser. Et entre parenthèses, des organisations même comme l'ECUMA, même dans l'ouest de la France, qui développent des services qu'on qualifie de chantier complet, parce que eh bien, elles aussi ont des difficultés pour développer des formes d'organisation collective traditionnelles. Et donc, ce mouvement de tertiarisation, il témoigne du fait que l'activité agricole est une activité, ou du moins peut être une activité de service comme une autre. Et ce qu'on a pu observer sur le terrain, c'est de nouveaux outils de copilotage des exploitations agricoles qui font écho à des logiques de recentrage ou des logiques de délégation intégrale. Tout à l'heure, je vous parlais de ce processus qu'on a étudié, de ce mouvement d'ampleur, hein, qui est celui du recours à la sous-traitance, hein, entre parenthèses, un marché de plus de 4 milliards d'euros en France. Eh bien, ce recours à la sous-traitance, il a été pendant très longtemps porté par des organisations comme l'ECUMA. On sous-traitait aux voisins, on sous-traitait à celui avec qui on faisait alliance. Il fait écho aussi à l'émergence d'entreprises de travaux agricoles qui n'ont jamais été aussi nombreuses en France. Depuis 1992, date de la réforme de la PAC, on n'a jamais vu autant de création d'entreprises de travaux agricoles. Bon, ce n'est pas simplement un produit inattendu de la politique agricole commune, hein, mais un certain nombre de mesures de défiscalisation ont permis à des agriculteurs notamment de créer des entreprises de travaux et à ces mêmes agriculteurs de faire de la prestation pour eux ou pour le compte de tiers. Et c'est à partir de là qu'on a vu s'installer un nouveau marché et de nouveaux acteurs sur lesquels on travaille actuellement dans l'équipe, et des acteurs qui aujourd'hui ont vu le nombre de salariés en leur sein augmenter de plus 63% entre 2003 et 2017. Au-delà des travaux qu'on a pu mener sur la grande entreprise agricole, on a cherché à décrypter ces acteurs de la prise en charge du travail, hein, depuis 5 ans. Ça a fait l'objet d'une note là, qui a été publiée dernièrement par la cellule de prospective du ministère. Je le disais tout à l'heure, les entreprises de travaux agricoles, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, et c'est l'une des hypothèses qu'on énonce avec Geneviève Nguyen, c'est qu'on passe, comme on a pu l'observer dans le secteur industriel jadis, d'une sous-traitance de capacité. Vous savez, l'agriculteur qui avait recours à l'entreprise de travaux était un agriculteur qui ne pouvait pas s'acheter une moissonneuse-batteuse, une machine à vendanger. C'était une sous-traitance qu'on pourrait qualifier de capacité. On n'avait pas la capacité d'acheter une moissonneuse et donc on avait recours à un sous-traitant. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt une sous-traitance de spécialisation et de spécialité qui est en train de se mettre en place, et notamment dans l'ouest de la France, notamment dans les zones d'élevage, où on voit des éleveurs qui nous disent eh bien, on cherche à être de plus en plus performant sur l'atelier lait. Et donc, pour être de plus en plus performant sur l'atelier lait, il faut que je me dégage du temps. En plus, qui plus est, je suis de plus en plus seul. Mais pour autant, je n'ai pas envie de perdre de l'argent sur la gestion des pâtures et la gestion des cultures. Ça m'intéresse un peu moins. Et donc, malgré tout, j'ai quand même envie de la confier, cette gestion à des acteurs qui maîtrisent leur sujet, voire même qui disposent de nouvelles technologies permettant d'optimiser les traitements, etc. Et donc, on a vu se développer, je reviendrai là-dessus, une sous-traitance par recentrage sur des activités productives, notamment en élevage, qui a conduit à l'émergence de nouvelles figures d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que tout comme dans l'industrie, eh bien, on a vu apparaître des assistants à maîtrise d'ouvrage depuis une dizaine d'années, qui sont soit des agriculteurs qui créent une société agricole à responsabilité limitée et qui font de la prestation et qui mettent en relation un voisin avec des entreprises de travaux, soit des entreprises qui vont se créer ex nihilo ou qui viennent de Belgique ou d'Angleterre et qui s'installent sur le territoire, non pas pour prendre en charge les travaux, mais pour organiser la production agricole. Et c'est quelque chose qu'on a vu se développer dans le nord-est de la France, avec des acteurs industriels, notamment de la filière légumes surgelés, qui ne cherchent même plus à contractualiser avec des petits exploitants ou des exploitants de taille moyenne et qui préfèrent passer par quelqu'un qui va organiser la production pour eux. Et très souvent, ces assistants à maîtrise d'ouvrage prennent en charge l'organisation, tout ou partie de l'organisation du travail pour le compte de ces industriels ou alors pour le compte de ces familles qui cherchent à déléguer partiellement ou totalement l'activité de l'exploitation agricole. Et ça, c'est très intéressant de constater que ces assistants à maîtrise d'ouvrage prennent la figure de services de coopératives agricoles, prennent la figure d'entreprises de travaux, prennent la figure d'exploitants agricoles ou d'entreprises étrangères. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage de type productive, qui est un élément assez central de ce nouveau marché de la production agricole, est portée par des acteurs très, très différents et même des acteurs classiques. On voit même des CUMA aujourd'hui prendre en charge le travail de voisins, alors même que ces voisins ne sont pas adhérents de la CUMA. On voit des CETA développer des activités de prestation de services pour le compte d'adhérents qui ne trouvent plus de repreneurs. On voit émerger des filiales de coopératives spécialisées dans la prise en charge des travaux. C'est le cas d'une grande coopérative, notamment dans la Beauce, même, qui a racheté des entreprises de travaux parce que, elle s'est trouvée devant l'incapacité à trouver des repreneurs pour leurs propres exploitations adhérentes. Donc, de nouvelles entreprises en réponse à de nouveaux besoins et des pratiques de sous-traitance qui ne renvoient pas simplement à des logiques d'abandon. Les travaux qu'on mène montrent bien que certains agriculteurs soucieux de certaines transitions, même agroécologiques, et qui n'en ont pas la capacité parce que ne disposant pas de matériel, vont déléguer, d'autres pour gérer au mieux certains risques, d'autres contraints par des systèmes d'exploitation de petite taille, ou alors d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé de repreneur, ont plus ou moins recours à ces logiques de sous-traitance et de délégation d'activités agricoles. Et vous voyez cette carte qu'on a construite à partir des données du recensement agricole montre bien que toutes les régions sont concernées et même des régions d'élevage comme les vôtres sont concernées par une délégation intégrale des travaux de culture qui ne cesse de se développer. Pas moins de 16 à 18% des exploitations en Bretagne délèguent l'intégralité de la partie culture à des entreprises ou des CUMA ou d'autres voisins, tout simplement parce que, avec la libéralisation aussi de certains marchés, il faut, comme je disais tout à l'heure, être de plus en plus performant sur l'atelier lait. Mais vous voyez, dans le département de l'Eure, où vous avez, par exemple, un fort taux de délégation, ça ne renvoie pas forcément aux mêmes logiques. Dans ce département-là, il y a des logiques d'abandon aussi qui président au recours à la délégation, tout comme en Haute-Garonne. Et on voit que, notamment en zone céréalière, vous voyez la carte donc, de France qu'on a construite autour des exploitations de l'OTEX 15, c'est pas moins de 12% des exploitations qui délèguent l'intégralité de l'activité grande culture, donc toute l'activité de l'entreprise agricole. Et vous voyez que, notamment, c'est quelque chose de très, très développé dans des départements comme l'Eure, la Haute-Garonne ou la Marne. Vous avez à peu près 20 000 hectares qui sont délégués intégralement à des tiers. Voilà, et pour des logiques différentes, approvisionnement versus recentrage ou abandon. Alors, pour résumer ce que l'on perçoit du terrain, ça fait écho aussi aux travaux qu'on a menés là, ces derniers mois, on voit une évolution en réponse à des défis internes, recours à la main-d'œuvre, incapacité à transmettre ou à installer. Une évolution que je viens de décrire qui est aussi une réponse à des politiques publiques qui rendent beaucoup plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains processus de transition, c'est-à-dire que les exploitations de petite taille ou de taille moyenne sont souvent les premières victimes de ces dispositifs qui sont censés être pensés pour elles. Et on voit bien que ces évolutions que je viens de décrire sont aussi des réponses aux incertitudes croissantes qui traversent les mondes agricoles et notamment le monde de l'exploitation de taille moyenne. Avec plusieurs objectifs, ces nouvelles entreprises agricoles, elles renvoient à une réorganisation du travail, une optimisation de la ressource, mais aussi à une volonté de se multispécialiser, c'est-à-dire que on n'est plus forcément, dans ce cas-là, sur des formes de diversification, la diversification étant souvent un moyen pour s'en sortir. Aujourd'hui, dans certains cas, se multispécialise pour faire face à ces incertitudes, ou alors on développe de nouvelles formes d'organisation aussi parce qu'on a besoin de prendre le temps de pouvoir installer quelqu'un. Donc on a trois grandes stratégies avec implication organisationnelle. On a soit des logiques d'intégration avec mise en place d'une gouvernance plutôt hiérarchique dans ces entreprises, soit des stratégies de délégation avec une gouvernance déléguée, soit des types d'associations avec des nouveaux collectifs. C'est-à-dire que le capitalisme agricole tel que moi je l'observe en France repose effectivement sur ces trois axes stratégiques, intégration versus délégation versus association. Donc on est face à des formes d'organisation de la production qui renvoient à des types de gouvernance qui vont de la gouvernance hiérarchique à la gouvernance déléguée, voire la gouvernance partagée. Donc le capitalisme agricole contemporain, du moins à la française, témoigne de ces différentes, ou du moins témoignerait, je dirais, puisque ce sont des hypothèses de ces différentes stratégies. Et trois stratégies, en fait, qui cherchent, quelles que soient les ressources mobilisées, à réorganiser surtout les chaînes de valeur à travers de nouvelles alliances stratégiques, de nouveaux réseaux de prescripteurs, de nouvelles ressources et de nouvelles normes. Et ça, c'est intéressant de voir que, en fait, toutes ces évolutions que je viens de décrire, eh bien, participeraient en fait, d'une certaine manière, d'une logique, du passage d'une logique de filière à une logique de chaîne de valeur. Moi, je suis frappé de voir combien certains dirigeants d'entreprise se fixent comme objectif non pas d'être là demain dans une même filière, mais d'être là demain dans une même chaîne de valeur ou dans plusieurs chaînes de valeur. Et on voit bien que la multispécialisation, elle peut faire écho non seulement à des logiques de coordination sectorielle de filières, mais aussi à des coordinations intersectorielles. Et je suis frappé de voir que certaines exploitations qui développent des activités dans le secteur même agritouristique ou de la production d'énergie ont la capacité de passer d'une chaîne de valeur fondée plutôt sur des activités industrielles à des chaînes de valeur fondées plutôt sur des activités tertiaires ou agricoles. Donc ça fait écho à de nouvelles hypothèses, hein, ces réflexions-là. On a aujourd'hui, excusez-moi, hein, je suis en train de faire rentrer des personnes qui sont en salle d'attente. On a de ce qu'on observe une volonté chez certains de s'émanciper de ce modèle traditionnel de l'exploitation qui repose du moins pour les cas qu'on a étudiés dernièrement sur une relecture des règles, hein, et une capacité à en construire de nouvelles. Et on voit que le droit à travers des mécanismes à la fois d'optimisation fiscale et sociale s'avère être un outil au service ou non, hein, d'un projet économique. Et c'est intéressant de voir la capacité de certains dirigeants agricoles, avec l'appui de certains prescripteurs, à mobiliser le droit pour mettre en place ces nouvelles façons de concevoir la production ou la diversification. Cette émancipation, elle repose aussi sur une capacité à mobiliser des ressources territoriales de manière très réticulaire et en réseau. Et en fait, ces nouvelles formes d'entreprise qu'on étudie, elles contribuent à la mise en place de nouvelles façons de concevoir l'échange entre acteurs industriels et entreprises agricoles. Et cette émancipation, elle fait écho, je l'ai dit tout à l'heure aussi, à une capacité à porter des projets économiques qui vont relever plutôt, non pas d'une diversification, mais d'une multispécialisation. Voilà, donc tout ça, ça pose un certain nombre de questions à la recherche, ça pose des questions sur la nécessité de comprendre la transformation accélérée, vous l'avez compris, des exploitations agricoles, les déterminants, les processus aussi sous-jacents de distanciation au modèle agricole de type familial traditionnel. Ça nous conduit à nous dire que, ben, il faut poursuivre ce travail d'étude, hein, sur les innovations organisationnelles dans l'entreprise agricole et dans quelle mesure cela peut aussi participer de nouveaux avantages concurrentiels et ça peut participer de la création de valeur. Et ça prouve aussi une chose, c'est que d'une certaine manière, la valeur se niche derrière une donnée assez essentielle qui est celle de l'organisation de la production agricole. Et là, je sors un peu de mon rôle de chercheur, mais en fait, ce qui restait aux agriculteurs, ils avaient perdu le virage de la transformation, ils ont plus ou moins perdu le virage de la commercialisation. On est à un moment donné de l'histoire où peut-être que demain, si on n'y prend pas garde, ce qui est co-substantiel de l'activité agricole échappera aux agriculteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que l'activité productive agricole peut leur échapper. Or, on voit bien que c'est un élément central de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que quand vous discutez aujourd'hui avec un industriel, même comme Danone, il vous dira que ce qui est le plus important pour lui à l'échelle, je dirais, du territoire français, c'est de maintenir sa capacité d'approvisionnement et que de toute façon, coûte que coûte, il faudra avoir la main sur l'activité productive agricole à un moment donné si ces exploitants agricoles sont dans l'incapacité de transmettre leurs exploitations. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là, bien qu'on a décidé avec Geneviève de lancer une chaire intitulée Germea comme groupe d'études et de recherche sur les mutations de l'entreprise agricole, qui a trouvé le soutien du fonds de dotation de l'Université fédérale de Toulouse et de Toulouse INP, et une chaire qui bénéficie aussi du mécénat d'entreprises comme le groupe Terena, Euralis et Vivesia. Et cette chaire a pour objectif de poursuivre en fait l'ouverture de la boîte noire que constituent aujourd'hui les exploitations agricoles pour en comprendre un peu mieux le fonctionnement interne, analyser aussi l'impact des transformations sur les métiers, comprendre l'insertion de la grande entreprise aussi dans différents espaces d'action, parce que on voit bien que ces entreprises ont la capacité même de s'émanciper hein, des formes d'organisation traditionnelles, même comme les coopératives agricoles qui certes ont pris le virage de la transformation à un moment donné, de la commercialisation, mais qui peuvent se voir aujourd'hui dépassées par des acteurs de l'amont qui ont la capacité de venir les titiller grandement sur leur marché. Voilà, et donc on poursuit ces travaux autour de six axes de recherche. On poursuit ce travail de compréhension des nouvelles formes de gouvernance. On cherche à toujours avec Loïc, à mieux comprendre comment émergent de nouvelles figures du management productif. Ces travaux se poursuivent dans le cadre d'une compréhension, on va lancer une grande enquête Kanti sur les déterminants de la sous-traitance dans le Nord-Ouest et dans le Nord-Est. Et puis voilà, chercher à comprendre aussi comment ces entreprises s'insèrent ou pas dans les filières et les territoires, c'est bien des éléments qu'on cherche à décrypter. Voilà en quelques mots des éléments à la fois d'ordre contextuel, des éléments qui relèvent d'hypothèses de travail, mais qui toutes et tous font écho à des travaux de terrain qu'on s'emploie à réaliser encore sur le terrain. Voilà.